Elle domine cette séquence de la tête et des épaules, elle est la reine du quiz. Seulement voilà. Clémentine Portier-Kaltenbach joue avec le feu en manquant de plus en plus souvent de respect à Stéphane, qui pourrait bien finir par être piqué au vif et avoir un sursaut d'orgueil. L'autre jour, elle a carrément avoué l'inavouable quand on bosse avec Stéphane.
Vous n'avez pas regardé Secret d'Histoire hier soir ?
Eh ben non, j'ai pas regardé.
La vengeance qui, comme le gazpacho, se mange froid sera terrible. Clémentine, jouons à Burn to be Alive. Stéphane, la première question est pour vous et à mon avis, vu l'intitulé de cette question, vous devriez trouver facilement la réponse. La duchesse Elisabeth Amélie Eugénie de Wittelsbach est née à Munich en 1837.
Wittelsbach,
à mon avis.
Oui, je ne sais pas parler allemand. De Wittelsbach. Ça s'écrit quand même Wittelsbach, alors.
Non, c'est une erreur.
C'est Wittelsbach, la
c'est
grosse
une
erreur.
Copie.
Oui,
c'est
on va
une...
la refaire.
La duchesse, Stéphane, la duchesse Elisabeth Amélie Eugénie de Wittelsbach est née à Munich en 1837. C'est évidemment.
Elisabeth d'Autriche.
Si, oui. On a tous en mémoire les jolis traits de Romy Schneider. La vraie Sissi faisait 1m72, 50 kg, 50 cm de tour de taille, 65 cm de tour de hanche et 95 B de poitrine. Vrai ou faux ?
C'est vrai.
Vous avez.
Oui, 95, c'est énorme, Stéphane.
Ah non,
vous n'y connaissez 50... rien, un bonnet de soutien-gorge,
ah
ma parole.
Que, non.
Il est tombé dans le
ah
thème.
Non,
le
95 B,
non,
mais vous rendez compte, elle aurait penché en avant, on dirait, je sais pas, flamant rose. Ou...
Non, mais c'est pas vrai. C'était Lolo Ferrari, vous avez confondu avec Lolo Ferrari. Si. Ah, c'est pignon, il aussi.
Pas du tout, elle était plate comme tout, elle avait les dents pourries.
Je me suis concentré sur les 50 centimètres, parce que c'est un truc qu'on n'imagine pas. C'est quand vous allez, par exemple, à Vienne, la finesse de sa taille, que l'on voit quand on visite la Hofburg de Vienne. Alors après, je n'ai pas écouté les autres.
Elle était très jalouse d'une chanteuse française qui s'appelait Polaire, qui avait la taille encore plus fine qu'elle. Mmh. Elle était dans la compète constamment.
Et elle se faisait tous les jours, on lui mettait des corsets et elle faisait tirer dessus.
Des culottes de peau en daim qu'on mouillait
Elle ne mangeait rien, elle se faisait. Elle avait des dents pourries d'ailleurs parce qu'elle se faisait vomir.
Elle faisait des monodiètes blanc d'œuf, jus d'orange, sans de beurre.
C'est ça le monde qui vous plaît.
Non, c'est pas la bonne réponse.
Vous ne connaissez rien
en bonnet soutien-gorge. Je crois que ça, la France entière est prête.
Effectivement, toutes les mentions
absolument estomaquées.
Que j'ai pas écouté la fin.
Toutes les mentions étaient bonnes.
Sauf
le 95.
Je peux vous le dire, moi j'ai été vendeuse quand j'étais à Sciences Po. Tous les lundis, j'étais au rayon lingerie du bon marché. J'en ai vu des fois défiler des nichons.
L'un était dame pipi à Versailles, l'autre vendait des soutifs au bon marché.
Bah ouais.
Quelle équipe d'historiens.
C'était l'époque où Sciences Po...
On va laisser cette phrase en suspens, dans le vide, comme ça, Stéphane. C'était l'époque où Sciences Po. Question numéro 2 pour vous, Clémentine, la vendeuse de 95B. Ouais. Si je vous dis que je vous propose maintenant une autre question sur Sissi, vous me dites non. Et moi, je vous réponds, si. Vous allez à Vienne visiter le musée consacré à Elisabeth d'Autriche. Vous y trouverez sa seringue à cocaïne. Vrai ou faux ?
Alors là, est-ce que
Vous qui êtes spécialiste de reliques.
Est-ce que Sissi a pu... Non, elle ne prenait pas de la cocaïne, non. Elle n'avait pas... Est-ce qu'on lui en aurait administré pour elle ? Elle a été tuberculeuse. Est-ce qu'on a pu lui en administrer pour une douleur particulière ? Mais comme analgésique, à une époque, on ne maîtrisait pas ça très bien. Non, elle prenait pas de la cocaïne. Je dis non, écoutez, sinon vous me l'apprendrez, vous me l'apprendriez, je dis non.
Vous avez perdu.
La seringue était rangée dans une petite trousse de voyage. Elle s'en servait au 19e siècle comme anesthésiant local, mais aussi comme antidépresseur, car on ne le dit jamais assez. La cocaïne est un excellent antidépresseur.
Ah bon, c'est vrai ?
Vous saviez
ça qu'elle prenait.
Je savais qu'elle avait une. J'ai vu la seringue.
Elle a une seringue, mais enfin,
mais je
elle n'était
pas,
elle était
cocaïne,
pas addict à la cocaïne.
Vous savez pourquoi ?
Vous savez, parfois, on se des injections de cellules de pour se rajeunir.
Oui, c'est qu'on connaissait pas. On a bien préconisé l'uranium, le radium pour comme soin de beauté.
Il y en avait dans les crèmes
moi,
de beauté.
Moi, je pense que c'est ça. C'est voilà, vous m'avez induite en erreur en me donnant à penser qu'elle
mais
était.
Moi aussi. Il m'a donné des chiffres bien.
Bah non,
dernier...
il vous donne du 95B.
Stéphane. Question numéro 3, Stéphane.
En tout cas, la balle au centre, hein. Zéro partout.
Zéro partout. Comment s'appelait l'anesthésiste officiel de la reine Victoria qui l'a endormie quand elle a eu son 8e enfant, le prince Léopold. William Shakespeare, Jon Snow ou Joe Cocker?
Je le sais, ça, Stéphane. Je peux vous aider.
Oui, mais ça ne va pas, Snow, ouais, ça ne va pas l'aider.
C'est pas Shakespeare, je pense pas. Oh là là, pourtant j'ai relu. Oui. C'est drôle quand
je rappelle que Stéphane a fait un récit sur la reine Victoria.
Si vous me donnez un demi-point,
très récemment. Stéphane, faites appel à vos souvenirs. On a parlé de la reine Victoria l'autre
jour. Oui. Elle avait un anesthésiste parce que c'est elle le chloroforme.
Le bon docteur, elle l'adorait. Elle
attendez,
écrit
anecdote
chez lui.
Historique, le chloroforme.
Oui, c'est la première qui a utilisé le chloroforme.
Elle a expérimenté.
Elle a expérimenté.
J'ai
pour
fait une
les
chronique intégralement là-dessus dans cette émission, mon cher Mathieu. Je pense que vous manquez un peu de cocaïne, hein, si vous voulez mon avis.
Redites-moi les noms. C'est pas Shakespeare, je l'aurais retenu.
William Shakespeare. Shakespeare, Jon Snow ou Joe Cocker?
Snow, je dirais.
C'est ça.
Vous avez gagné.
Sortez
Game of Thrones.
Tambours et trompettes, une bonne réponse de Stéphane Bern. Jon Snow, il y a le Jon Snow de Game of Thrones. Vous le connaissez, vous avez vu Game of Thrones ou pas? Ah non, vous n'avez pas suivi.
Non, mais j'ai pas la télé pour vous dire la vérité.
Et alors, si vous n'avez pas la télé, oui. Stéphane, comment vous avez vu la série sur la reine d'Angleterre?
Je vous explique.
Vous allez chez des amis? Comment ça se passe?
Non, j'ai un ordinateur.
Et vous avez les codes d'un ami qui... Voilà, d'accord, bravo. Le vrai Jon Snow a vécu au 19e siècle. C'était un grand épidémiologiste. Il aurait été un grand secours aujourd'hui. Également spécialiste de l'anesthésie. Après de nombreux travaux sur les terres, il est devenu officiellement, auprès de la reine Victoria, son anesthésiste attitré. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Alors attention, là, vous n'avez pas le choix, il faut répondre juste. Hélène Duncan était une médium écossaise du début du 20e siècle. Elle est la dernière personne à avoir été condamnée par une loi datant de 1735 contre la sorcellerie. Elle reste connue pour avoir dit être entrée en relation avec un marin mort d'un cuirassé de la Royal Navy. Or, l'info sur laquelle le bateau avait coulé était classée secret défense. Vrai ou faux?
Est-ce qu'elle n'a pas fait une prédiction du type avec un lien avec... C'était à quelle époque?
19e.
C'est au 19e. Elle aurait donc prédit l'échouage d'un bateau.
Elle n'a pas prédit. Elle serait entrée en relation avec un marin qui était mort sur un cuirassé de la Royal Navy. Mais cette information, si vous voulez, elle était classée secret défense.
Bah oui, bien sûr, c'est vrai.
Vous avez gagné.
Bonne réponse. Sauf, effectivement, que les familles, il y a une explication logique, les familles des 861 morts du bateau HMS Barham avait reçu une lettre de condoléances. On a estimé que à peu près 9000 personnes étaient donc au courant. Donc, on était peut-être face à un cas de charlatanisme et non de communication directe avec les esprits. Question numéro 5, c'est celle qui va vous départager. Je sens une grande tension entre vous. Vous êtes prêts.
On s'entend bien, vous savez.
Oui, mais là, oui.
Non, mais là, avec votre masque noir, vous ressemblez un peu
terrible.
À Dark Vador.
Ah,
j'ai peur.
Il manque que le souffle. C'est Dark Vador qui aurait été enroué ou... Je ne sais pas. Si Dark Vador avait eu ce souffle-là, personne n'aurait eu peur de lui.
Ça, c'est Dark Vador.
Oh, là, vous me terrifiez, Stéphane. C'est impressionnant.
Je vous raconterai une histoire sur Dark Vador.
Bah, vous l'avez connu aussi, parce qu'on
rappelle votre aventure avec R2D2. Non, c'est pas que je l'ai connu, c'est qu'un jour, mon mari achète une place de foot au PSG, au Parc des Princes, et le gars s'appelait Dark Vador. Et comme il n'a jamais regardé, il est comme Stéphane, il ne connaît pas la Guerre des Étoiles, il ne regarde pas la télé, etc. Il va rencontrer le type, il lui tend la main en disant « Vous êtes Monsieur Vador ?» De rire.
Alors que vous, Star Wars,
moi, Dark Vador,
vous, évidemment,
ça par cœur, bien sûr.
Évidemment, vous l'avez fréquenté aussi. Il y a une explication historique à cette question. 60% des Japonais ne vivant pas au Japon sont dans un même pays. Lequel? Trois propositions. Les États-Unis, la France ou le Brésil?
Les États-Unis.
Oh mince.
Qui était le plus rapide? C'est important de savoir qui a été le plus rapide.
Clémentine.
Car la personne qui a été le plus rapide à cette question a perdu le quiz. Puisque effectivement... La réponse
c'est le Brésil.
N'était
Brésil.
Ni les États-Unis, la France, mais le Brésil.
Ah,
samba.
C'est marrant ça.
Et oui, en 1868, les Japonais sont autorisés à quitter leur pays. Les agriculteurs sont handicapés par la forte industrialisation du Japon. Dans les années qui suivent, c'est aux États-Unis qu'ils migrent principalement. Puis en 1924, une loi interdit l'immigration asiatique. Ils se tournent alors vers le Brésil, qui, avec la fin de l'esclavage, avait un besoin urgent de main-d'œuvre. Aujourd'hui, la troisième génération de Brésiliens d'origine japonaise est appelée les Nikkei. Et là, vous aurez pour une fois appris quelque chose. Qui s'est fait Nikkei exactement, Stéphane? Vous voulez développer peut-être votre pensée, parce que ça peut être intéressant effectivement pour finir sur une note un peu chic. Oui, quelqu'un s'est fait Nikkei, je ne sais pas, peut-être votre réputation. Bravo en tout cas Stéphane.